La tuerie de Louveciennes ou l'histoire d'un adolescent tueur, épisode 2.
C'est une ombre à l'arrière de cette voiture de police qui disparaît. C'est un adolescent qui a tué 6 fois que les interrogatoires de police n'ont pas complètement cerné. C'est un copain de classe et de rugby que ses meilleurs amis ne comprennent toujours pas.
Dans cette voiture se cache Alexis Polvoy, 16 ans et demi. Il quitte la PJ de Versailles où il était en garde à vue pour être présenté au parquet. Il a avoué aux policiers avoir tué dimanche soir dans leur maison de Louveciennes son père, sa belle-mère, ses grands-parents et un couple d'amis.
Alexis Polevoy, jeune émigré russe de 16 ans, a spontanément avoué avoir tué son père, sa belle-mère, les parents de celle-ci et un couple d'amis des Polevoy. Son mobile, les violences physiques et psychologiques incessantes que lui faisait vivre Eugène Polevoy, son père. Dans son entourage, c'est l'incrédulité. Oui, Eugène était caractériel, mais c'était aussi un homme généreux, plein d'ambition pour son fils. Et puis Alexis n'est qu'un enfant maladroit, il ne peut pas être coupable, c'est impossible. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Mis en examen pour assassinat, le jeune Alexis Polevoy est placé en détention provisoire dans le quartier des mineurs de Bois d'Arcy. Depuis son arrestation, il est extrêmement calme. Il se plie sans sourciller à toutes les règles de la prison, à tous les interrogatoires. Le lendemain des faits, il a tout dit, endossé l'entière responsabilité du sextuple meurtre. Mais depuis la Russie, sa mère, Raïssa, ne croit pas du tout en la culpabilité de son fils et remue ciel et terre pour faire sortir Alexis de prison. Alexis est né en 1978 dans le Moscou communiste de Boris Eltsine. L'année de ses 7 ans, son père Eugène et sa mère Raïssa divorcent. Eugène se remarie rapidement avec Ludmila, quitte la Russie, s'installe en France et coupe les ponts avec son fils. Pendant 6 ans, Alexis grandit donc modestement avec sa mère, bibliothécaire dans la capitale russe, sans aucune nouvelle de son père. En 1992, Eugène réapparaît dans la vie de son fils et lui propose de venir s'installer avec lui en France. Pour le jeune russe, c'est une chance. Les temps sont durs à Moscou. L'URSS est tombée il y a quelques mois, entraînant une grave crise économique et sociale. À Paris, Alexis aura donc une vie et une éducation bien meilleures. Alors il accepte la proposition de ce père, qu'il connaît à peine, embrasse sa mère, qui reste au pays, et s'envole pour la France. Arrivé dans cette très cossue banlieue parisienne de Louveciennes, Alexis intègre en tant que pensionnaire un collège privé. Sa scolarité se passe bien. Il est un brillant élève, selon ses professeurs, et apprend très vite à parler français. Un an plus tard, il entre en seconde au lycée L'Ermitage de Maison Lafitte. Au pensionnat, il se fait de nombreux amis et rejoint l'équipe de rugby. Le jeune homme est de stature moyenne et plutôt costaud, 85 kg pour 1m75, c'est un gamin gentil. D'ailleurs, ses coéquipiers le surnomment l'ourson russe. Alexis est calme, joyeux et poli. Cheveux coupés courts et visage angélique. Non, vraiment rien à redire sur ce garçon qui s'adapte très rapidement à sa nouvelle vie. Jusqu'ici, Alexis mène donc la vie, dirons-nous, banale d'un adolescent d'une banlieue chic. C'est sans doute quand il rentre en première scientifique que tout bascule. Alexis a maintenant 15 ans et il ne veut plus être pensionnaire. Alors son richissime père lui loue un studio juste en face du lycée. C'est un petit appartement qui ne paye pas de mine, mais c'est déjà beaucoup pour un ado. Pour subvenir aux besoins de son fils, Eugène lui donne 10 000 francs d'argent de poche par mois, soit environ 1 500 euros, une jolie petite somme. Bien sûr, il doit rendre des comptes à son père. Sa scolarité doit être exemplaire et il doit passer tous les week-ends dans la villa de Louveciennes. Mais la vie d'Alexis change radicalement. Il est désormais libre de ses mouvements et surtout, il est riche. Le jeune garçon frime. Il sort en boîte de nuit, paye les tournées à coups de bouteilles de champagne et fréquente la jeunesse dorée russe de Paris. C'est dans l'une de ces soirées qu'il rencontre Yana, une jeune expatriée russe de 21 ans, fille du chef d'escale de la compagnie aérienne Aeroflot. Alexis tombe tout de suite sous le charme de cette jolie blonde pour qui il dépense sans compter. Restaurant, soirée en discothèque, bijoux et autres cadeaux. Rien n'est trop beau pour sa belle avec qui il s'affiche fièrement. Eugène est furieux et s'oppose catégoriquement à cette union. Alexis doit se concentrer sur ses études, obtenir le bac avec mention, intégrer une école d'ingénieur pour ensuite reprendre les rênes de l'entreprise. Avoir une petite amie le détourne de ce chemin. Inévitablement, la relation père-fils se tend. Contre l'avis de son père, Alexis continue de fréquenter Yana. Un jour, alors que Eugène est en voyage d'affaires, le jeune homme organise une petite soirée à Louvciennes avec tous ses nouveaux amis et Yana, évidemment. La fête bat son plein quand Eugène débarque, plutôt prévu. Il est ivre et en colère. Devant tout le monde, il humilie Alexis et va même jusqu'à draguer lourdement l'une des jeunes filles présentes. Quelques mois plus tard, toute la petite famille Bolevoy, Eugène, Ludmila, Alexis et Nathalie s'envolent vers Moscou pour fêter Noël. Loin de sa petite amie, Alexis déprime. Yana lui manque tellement qu'il décide de fuguer et de prendre un avion pour la retrouver en France. Eugène, lui, fulmine. Au début de l'année 95, la relation entre Alexis et Eugène est des plus tendues. Depuis qu'il fréquente Yana, Alexis travaille beaucoup moins au lycée. Ses résultats sont en chute libre et il ne va plus aux entraînements de rugby. Son père le rabaisse et le frappe de plus en plus. Eugène soupçonne Alexis de se droguer. Un soir de colère, il force son fils à se mettre nu pour vérifier qu'il n'a pas de traces de piqûres. Une autre fois, Eugène, ivre, réveille Alexis en plein milieu de la nuit, juste pour le frapper à coups de ceinturon. Derrière les murs de la villa de Louvciennes, pas un week-end ne passe sans que les coups ne pleuvent, de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Alexis est battu devant sa belle-mère et devant les amis d'Eugène qui ne réagissent pas. Début février, à cause des mauvais résultats scolaires d'Alexis, Eugène lui confisque les clés de son studio, sa carte bleue et son passeport. Alexis est donc contraint de retourner vivre à Louvciennes dans la maison familiale, d'où il n'a quasiment plus le droit de sortir. Il n'a plus d'argent, plus de liberté, et surtout, eh bien, il ne voit plus Yana. Humilié, frappé et séquestré, Alexis n'en peut plus. Pour en finir, il ne pense qu'à une seule solution, éliminer son père.
À la police judiciaire de Versailles, les interrogatoires du jeune Alexis se terminent aujourd'hui. Lui, qui devait avoir 17 ans dans un mois, explique toujours son geste par ses mauvais rapports avec son père et une humiliation longtemps ruminée.
Il avait prémédité d'en finir avec son père. Il ne voulait pas, nous dit-il, faire ça avec les autres non plus. Il aurait voulu, il aurait souhaité, en fait, parce que c'est contre son père qu'il avait du ressentiment, pas un peu contre les autres, qui ne prenait jamais sa défense. C'est ce qu'il dit aussi, par exemple, ses grands-parents, qui étaient là assez souvent, ne prenait jamais sa défense lorsqu'il était brutalisé ou rudoyé. Mais enfin, il en avait surtout contre son père et il déclare qu'il aurait voulu en terminer avec son père tout seul. Mais enfin, là, l'enchaînement s'est produit et puis...
Le jeune meurtrier sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction et très probablement écroué dans un quartier de mineurs avec suivi psychologique.
La tuerie de Louvciennes se présente donc comme un parricide. Alexis tue son père pour mettre fin à des mois de violence physique et psychologique, puis il tue les autres personnes de la maison parce qu'elles n'ont jamais pris sa défense. En prison, Alexis ne fait pas de vagues. Il est calme et obtient même son bac de français. Sa mère, Raïssa, fait des allers-retours depuis Moscou pour lui rendre visite. Un jour, au parloir, Alexis lui raconte qu'il n'y est en fait pour rien. ce n'est pas lui le meurtrier de Louvsienne. Selon Alexis, un homme en noir, cagoulé et ganté, aurait tué tout le monde avant de demander, avec un fort accent russe, à Alexis de s'accuser des crimes sous peine de représailles. Raïssa en était persuadée, son fils ne peut pas être coupable. 9 mois après la tragique nuit du 26 février, l'enquête bascule. Face au juge d'instruction, Alexis revient sur ses aveux. Non, ce n'est pas lui qui a tué. C'est un homme en noir, engagé pour exécuter son père. Après avoir tué tout le monde, ce mystérieux personnage aurait fouillé la maison pour trouver un dossier rouge annoté 30 millions de dollars. Puis, il serait reparti, dossier sous le bras, avant de lancer à Alexis.
Tu vas appeler la police et t'accuser. Tu vois de quoi on est capable. Remercie ton père.
Alexis est sûr de lui. Cet homme en noir est envoyé par la mafia russe. Lors de la reconstitution, le 26 juillet 1996, Alexis maintient la version de l'homme en noir. Il est précis dans le déroulé des faits, puisqu'il a assisté en tant que témoin à toute la tuerie. Le tueur, d'ailleurs, l'aurait maintenu en joue tout du long, lui ordonnant de recharger les armes avant de le forcer à tirer sur son père. Quelques incohérences sont relevées, mais le récit d'Alexis est quand même crédible. Pour les proches de l'adolescent, sa mère, ses amis et ses professeurs, c'est impossible qu'Alexis ait pu tuer. Il est bien trop gentil et surtout tellement maladroit. Sa mère dit même qu'il ne pouvait pas se servir un verre d'eau sans en renverser partout. Alors, vous l'imaginez tuer 6 personnes ? Et puis, c'est vrai que son père le battait, mais Alexis n'avait pas de haine contre lui. Il ne le détestait pas au point de le tuer. C'est donc deux thèses, vous l'aurez compris, qui s'opposent. Soit la tuerie de Louvsienne est un parricide élargi perpétré par Alexis, soit c'est un règlement de compte mafieux. Si le fils est le meurtrier, on comprend mal pourquoi aucune des victimes n'a cherché à fuir. Surtout que Slava, l'un des amis d'Eugène tué dans la maison, est un ancien agent du KGB. Et que Fedor, le père de Ludmila, était un homme musclé, ancien officier de l'armée de l'air. Deux colosses qui se seraient laissés faire face à un adolescent. Autre fait troublant, la précision des tirs. Sur les 16 douilles qui ont été retrouvées pendant l'enquête, 15 ont atteint leur cible. Qui, à part un professionnel, aurait pu être aussi précis? Et puis, le lendemain et le surlendemain du drame, la maison de Louvsienne a été fouillée de fond en comble par des inconnus. Et si l'homme en noir était revenu pour effacer des traces ou récupérer des documents supplémentaires? Ces différents éléments penchent plutôt pour la thèse de ce tueur mystérieux. Cependant, si Alexis n'est pas le coupable, il est difficile d'expliquer pourquoi le tueur a utilisé des armes appartenant à Eugène. Déjà, il fallait savoir que la maison était truffée de pistolets, carabines et autres Kalachnikov. Un tueur à gages serait-il venu sans ses propres armes? Non, ça ne paraît pas cohérent. Dans les deux scénarios, il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent. Pour la justice, une course contre la montre s'enclenche. Il est interdit de garder un mineur en détention provisoire plus de 2 ans. Entre les 4 murs de sa cellule de Bois d'Arcy, le jeune Alexis, 19 ans, visage poupin et yeux clairs, attend donc patiemment son procès. Dans quelques mois, la justice dira si oui ou non la piste d'un mystérieux homme en noir est assez crédible pour innocenter le jeune garçon. La mafia avait-elle bel et bien des comptes à régler avec Eugène Polevoy? Et d'ailleurs, qui était vraiment ce businessman mystérieux? C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous le souhaitez, à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.